Bonjour à toutes et à tous, René avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour, comme chaque mercredi, entre 16h et 16h30, le magazine Campus Lille Info, un magazine qui s'intéresse de près à l'université et aux universités, mais plus généralement à l'université de Lille et en l'occurrence à l'université Sciences et Technologies de Lille, puisque nous accueillons aujourd'hui M. Olivier Lasvergnas, qui est vice-président délégué à la culture et au patrimoine de cette université. Bonjour M. Lasvergnas.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir. C'est la première fois que vous pénétrez dans ce studio.
Absolument, oui, c'est une découverte pour moi.
Voilà, je veux dire que cette radio fait aussi partie du patrimoine à la fois culturel et patrimoine presque scientifique, puisque nous avons ici une expérience technologique qui date de 1969 avec quelques outils et quelques appareils qui fonctionnaient à l'époque quelque part en stock.
En fait, ce qui est une découverte pour moi, c'est l'intérieur du studio. Évidemment, Radio Campus, forcément, on ne peut pas ignorer.
Donc ce studio en fait accueille régulièrement tous les mercredis, on vient de le dire, cette émission qui est consacrée à l'université, donc l'objet aussi d'un partenariat entre l'université et Radio Campus. Dans ce cadre aujourd'hui, on va présenter la rentrée culturelle de l'université Sciences et Technologies de Lille, sachant que cette université est maintenant intégrée d'une manière de plus en plus, on va dire, réaliste et réelle à l'université de Lille. Peut-être que vous aurez une idée aussi, nous donnerez une idée de où en sont les travaux.
Ben le regroupement des trois universités, c'est un chantier qui est maintenant vraiment arrivé en phase de développement réel. La fusion entre guillemets administrative, elle est prévue pour le 1er janvier 2018. Donc il nous reste finalement très peu de temps pour organiser réellement le travail. Si je prends le sujet qui m'anime moi, par exemple, puisque je suis vice-président délégué à la culture et au patrimoine, ben en gros, on travaille de manière très rapprochée avec nos collègues de l'université de Lille 2 et Lille 3. Dans le champ culturel, il y a vraiment des évidences. Hein. On a des politiques culturelles qui sont très importantes dans chacune des trois universités. Et en fait, elles sont très complémentaires. On fonctionne de manière différente, d'une part parce que effectivement nos domaines disciplinaires sont pas les mêmes, et puis parce que les campus, les implantations sont différentes. Donc l'espace culture, qui est quand même un des fleurons essentiels de la cité scientifique, c'est une spécificité de Lille 1, parce que on a ce campus important, végétalisé, à l'américaine en quelque sorte. Les autres universités fonctionnent un peu différemment, mais pour nous, avec mes collègues vice-présidents, c'est évident qu'il y a un vrai enjeu culturel dans la fusion des universités, qui est d'être capable de faire comprendre à tous les étudiants, tous les acteurs des trois universités, comment chacun regarde la science, comment chacun regarde l'érudition. Parce que c'est vrai que droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences et technologies, c'est des façons de regarder le savoir, des façons de regarder l'érudition et des façons de regarder la scientificité différemment. Et c'est donc fusionner, c'est une occasion de faire réfléchir tout le monde sur le fait que nous avons un objet commun qui est l'acquisition, le partage, la transmission du savoir, mais que finalement, dans différentes disciplines, ça ne fonctionne pas de la même façon.
Alors la semaine dernière dans cette émission, nous avons eu le plaisir d'accueillir les trois vice-présidentes chargées de la vie étudiante pour présenter un événement qui est, on va dire, les journées JV, donc journée d'immersion à la vie étudiante, et aussi ce grand moment, un temps fort cette année en septembre qui est mixité. Donc je sais bien que ce n'est pas complètement votre domaine, mais ça vous a certainement interpellé.
Ben, ce qui m'a interpellé en fait, c'est l'accueil à l'université. C'est quelque chose qui effectivement paraît évident, mais j'ai vraiment pris du plaisir et beaucoup d'intérêt. Je suis venu au JV dans les amphis, exactement ici au bâtiment M1, dans l'amphi Archimède, écouter les discours d'accueil. J'étais dans le fond de la salle parmi les jeunes étudiants. Et effectivement, ce que disait donc Jean-Christophe Camard et puis Nicolas Postel, qui l'a remplacé le deuxième jour, c'était moi j'ai trouvé ça vraiment émouvant, alors que j'ai quand même passé la soixantaine, le fait qu'effectivement on prenne le temps, on voit l'importance de dire à des jeunes qui viennent de passer le bac que effectivement ils ont passé un bac et qu'ils sont entrés dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui construit beaucoup plus leur autonomie que ce qu'ils ont vu avant. Et donc, pour moi, effectivement, l'université, c'est pas seulement, bien entendu, le lieu de transmission des savoirs, c'est le lieu de la construction de la sortie de l'adolescence pour les étudiants de licence. Et donc, les JV, c'est très très fort. Et mixité, c'est évidemment aussi la suite de ça. L'université, c'est l'occasion de construire ses premières, je parle des licences, hein, mais c'est l'occasion de construire ses premières années d'adulte.
Alors c'est vrai que mixité, ce temps fort, donc, permet aussi la transmission entre les générations d'étudiants, je veux dire entre les années plus, hein.
C'est important parce qu'effectivement, finalement, être étudiant, c'est un métier en soi. Parce qu'effectivement, on sort complètement des années lycée. Et pour un certain nombre d'étudiants qui resteront ici jusqu'au doctorat, etc., on apprend énormément de choses différentes, on se construit complètement. Et il y a un rôle intergénérationnel qui doit être rempli et qui effectivement a pour cadre première étape mixité, c'est très clair.
Alors, dans cette université, donc l'université Sciences et Technologies de Lille, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de lieux où on peut se cultiver. Hein. On peut faire l'inventaire. Hein. Il y a l'Iliade maintenant, bien sûr, puisque c'est un développement, on va dire, de l'ancienne bibliothèque. Il y a aussi la maison des étudiants, puisque là, tous les jeudis, il doit y avoir un concert le soir, gratuit, ouvert à tous. Et là aussi, l'idée générale, c'est d'accueillir dans des événements gratuitement du public, hein, pour vous donc aussi en charge de cet espace qui s'appelle l'espace culture notamment.
En fait, l'élément évident, hein, c'est évident quand on est enseignant, c'est pas forcément aussi évident que ça quand on est jeune étudiant, c'est que un des enjeux essentiels de la vie universitaire, c'est d'être à l'aise, d'être heureux d'être là, et d'avoir envie d'apprendre et envie de partager son lieu d'apprentissage, quoi. Et si on imagine une université qui fermerait tous les soirs à 16h30 ou à 18h après le dernier cours, on serait obligé de rentrer chez soi, il s'y passerait rien du tout et ça serait un lieu qui n'est pas accueillant, ben, c'est sûr qu'on apprendrait beaucoup moins. Donc il faut qu'on partage un rapport de sympathie, il faut qu'on partage des amitiés, on découvre aussi beaucoup de choses sentimentales entre les bâtiments ou dans les couloirs, l'adolescence est terminée, la vie se construit, et ça... ça, il faut qu'il y ait un cadre qui le permette. C'est pas seulement en s'asseyant dans sa salle de TD ou dans sa salle de cours que effectivement on se construit ça. Et du coup, notre conviction, je parle pas seulement moi en tant qu'un des vice-présidents, suis chargé de la culture, je pense que nous sommes tous ici convaincus que nous devons prendre soin des étudiants, alors évidemment des personnels bien entendu, mais qu'on doit fabriquer un cadre dans lequel il y a de la vie culturelle, il y a des expos, des conférences, des ateliers, il y a aussi du sport, il y a de la vie étudiante, de la vie associative, de la vie militante, des partages, de la création, de l'écoute, de la rencontre, du dialogue, de temps en temps des engueulades, mais aussi des moments de partage. Et si on veut construire une université qui apprend, alors il faut construire ça comme cadre.
Alors c'est vrai que l'université à l'époque de Lille 1 était une des premières, on va dire, à mettre en avant pour une université scientifique à l'époque, hein, sciences et technologies, l'aspect culturel, développement culturel et artistique aussi d'une cité, hein, comme ici la cité scientifique. À l'époque, ça paraissait un peu étonnant. Est-ce que cette mission première d'irriguer ce territoire a mis du temps à se développer? Et où en est-on, on peut dire, à la fois des personnels, des étudiants et aussi du public extérieur par rapport aux pratiques, notamment de venir ici?
Un des enjeux... En fait, il y a deux enjeux. Hein. Il y a l'enjeu du campus comme un lieu de vie. Et donc finalement de faire que l'espace culture, la maison des étudiants, maintenant l'Iliade, etc., vous, Radio Campus, ça fasse partie du paysage et que tout le monde sache que c'est accueillant. Je crois que ça, C'est vraiment le cas. Tout le monde sait que ça existe. L'Iliade est en train d'être, j'allais dire, envahie, c'est un peu militaire, mais vraiment un succès, un grand succès vis-à-vis de tout le monde. L'enjeu par rapport à ça, c'est la cohérence. C'est-à-dire que, en fait, on est une espèce de place centrale ici, autour de l'Iliade, en fait, avec tout autour des boutiques, des maisons. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore des progrès à faire sur l'interconnexion de ces différents éléments. Il ne s'agit pas du tout d'uniformiser. Je pense que c'est très bien qu'on puisse boire un coup au 314, au bistrot, du nouveau bistrot de l'Iliade. Je pense que c'est très bien qu'on puisse aller boire un café à l'espace culture et au micro-air de la maison des étudiants. Mais ce qui serait bien, c'est que effectivement tout le monde sache que ces lieux existent, en comprenne la complémentarité, que certains aillent pour certaines choses, pour les conférences à l'espace culture, pour aller faire un baby-foot à la maison des étudiants, pour aller travailler en groupe à l'Iliade. Je pense qu'il y a encore un travail de cohésion. Ça, alors, c'est un chantier.
De cohésion, on peut dire aussi de communication, parce qu'il y a des éléments, des outils de communication. Alors, vous m'en avez ramené deux. Hein. On peut peut-être les décrire. Hein. Il y a les nouvelles d'Archimède, donc quelque chose de très particulier aussi pour une université scientifique.
Ben, les nouvelles d'Archimède, c'est un peu une anomalie au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une revue vraiment culturelle. Alors, elle est liée à nos cycles de conférences, puisque dans la saison culturelle, on fait tous les ans deux cycles de conférences. Et là, on va avoir cette année un cycle sur le jeu qui s'appelle « Jouer entre plaisir et utilité ». Et puis un autre cycle sur la mémoire qui s'appelle « Mémoire en mutation ». Donc, la revue Archimède, elle est liée à ces cycles de conférences, parce que les conférenciers font un peu des bandes-annonces de leurs conférences, mais elle a aussi toute une série de rubriques, des jeux mathématiques, des rubriques de prise de position militante, des rubriques sur l'histoire de l'université. Et effectivement, quand on regarde le paysage universitaire français, il n'y a pas beaucoup d'universités qui disposent d'une revue comme ça, qui sort trois numéros par an et qui a vraiment cette diversité-là.
Alors, souvent, dans ce journal, on retrouve les thématiques de l'année universitaire, puisque souvent, vous choisissez des angles particuliers. Est-ce que c'est le cas encore cette année ?
Alors, c'est le cas. Donc, on a choisi effectivement deux thématiques, celle du jeu et celle de la mémoire. L'idée, c'est vraiment de trouver des thématiques qui sont vraiment pluridisciplinaires et qui permettent à chacun de prendre la problématique qu'il a envie de prendre, quoi. Sur la question du jeu, effectivement, il y a tout un aspect passionnant qui est d'abord pourquoi on joue, enfin un peu anthropologique, hein, pourquoi on joue, c'est quoi jouer, quel rôle ça joue. Ça renvoie quand même à des questions cognitives et affectives, c'est-à-dire la charge cognitive, se débarrasser de sa charge cognitive par le jeu, le divertissement, le délassement. Et puis, il y a aussi toute la partie du plaisir de la difficulté.
Oui, le sport cérébral.
Hein. Voilà, le sport cérébral, les mots croisés, les sudoku, les machins, les trucs.
Ouais.
Et puis, après, il y a l'instrumentalisation du jeu pour enseigner le serious game, le jeu sérieux. Hein. Et puis après, le jeu de rôle qui décrit la sociologie des organisations, le jeu des acteurs, etc. Donc, finalement, le jeu est suffisamment polysémique pour que ça renvoie à plein d'aspects, plein de disciplines. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on parle du jeu, surtout quand on titre entre plaisir et utilité, ça amène à déconstruire une espèce d'évidente qui est fausse, qui est que apprendre, c'est pénible. Voilà, on vient d'une espèce de représentation dans laquelle, finalement, dans la vie, on a des choses qui consistent à apprendre, et c'est pénible. Avec l'idée que le jeu peut servir à apprendre, et que justement, on peut apprendre avec quelque chose qui n'est pas pénible, tout d'un coup, on se demande pourquoi on devrait se plaindre d'apprendre, quoi.
Alors c'est vrai que le plaisir d'apprendre et aussi la contrainte et la difficulté d'apprendre, je pense qu'on peut tout à fait les associer dans une vie d'étudiant. Hein.
Ben bien sûr, mais c'est l'enjeu. Alors là, c'est vraiment l'enjeu. Et puis, C'est pareil que le sport. Hein. Dans le sport, il est pas marrant si c'est tout le temps facile, si on se dépasse pas, si on n'arrive pas à faire l'exploit. Et faire l'exploit, c'est la pénibilité. Hein. Donc, c'est très intéressant cette question-là.
Donc, le deuxième thème, c'est mémoire, mais avec un S, les mémoires en mutation.
Ben, en gros, on a mis un S à mémoire, puis on a évidemment insisté sur mutation, parce qu'en fait, on fait vraiment le large spectre. C'est à la fois la question de la mémoire historique, sociologique, la mémoire symbolique, la mémoire des lieux, la mémoire des événements, le mémoriel. On va commencer par une conférence sur la mémoire de la Shoah, par exemple. Donc on est vraiment dans une question qui est... On en parle aussi aujourd'hui à propos des mémoriels pour les attentats. On est sur une question de société qui est... Comment on doit rappeler la mémoire de ce qui a été pénible? On sort de la mémoire de la Grande Guerre. Hein. Bon, donc on traite cette question-là du mémoriel et de la mémoire du point de vue de ce sociétal, en quelque sorte. Et puis on va complètement de l'autre côté sur la technologie, sur les mémoires silicium, les mémoires technologiques. Et là, on balaye vraiment un très très large champ.
Alors c'est vrai que passer de la mémoire, on va dire, morte dans des disques durs, donc stockée à l'exploitation de cette mémoire, on va dire à la mémoire vive et à l'exploitation de ce qui peut être fait, des données, hein, voilà, on est dans le champ de la recherche là déjà.
Oui, absolument, et la double recherche, parce que l'histoire, quand on parlait du mémoriel par exemple, y a aussi... la question de la fidélité de la mémoire, la question de l'objectivité de la mémoire. On reconstruit l'histoire quand on fait de la mémoire. Donc du coup, il y a plein de questions. Et ce qui est très intéressant, et là encore on est bien dans le pluridisciplinaire, c'est de se rendre compte que finalement les concepts qui nous servent, nous physiciens par exemple, à qualifier la qualité que peut avoir un système de mémoire, ou nous, informaticiens, la qualité que peut avoir un système de mémoire, c'est les mêmes concepts qui peuvent servir à analyser la mémoire historique. Effectivement, on peut se demander, quand on reconstruit l'histoire de la Première Guerre mondiale, quand on met en scène... Et nous ici on a beaucoup d'expositions sur le patrimoine scientifique, quand on met en scène l'histoire, effectivement on re-raconte, on réinterprète.
Alors ce qui est bien, c'est que, on va dire, d'un siècle à l'autre, voire d'une décennie à l'autre, on peut décrypter la mémoire, enfin la mémoire dure, hein, la mémoire stockée à la lueur des évolutions de la réflexion de la société.
Ben c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la succession des événements modifie les clés d'analyse. Et du coup, on peut revisiter la façon dont on regardait des choses. Il y a évidemment, d'une part, des données qui ne sont pas accessibles, des problèmes d'accès à l'information, il y a des problèmes de censure, etc. Mais il y a aussi, finalement, qu'on change de clé d'analyse. Alors, si on est optimiste, du côté du verre à moitié plein, on peut se dire que finalement, on apprend à prendre du recul. Et donc, plus le temps passe, plus on apprend à regarder, à objectiver les faits. Puis on peut penser aussi que c'est pas vrai, qu'il y a toujours de la subjectivité, évidemment, et que finalement, c'est simplement des clés différentes qui sont liées, et certes, à des évolutions de compréhension, mais aussi à des effets de mode, etc. Donc,
puis aussi à l'ouverture de certaines informations qui sont parfois du domaine de la confidentialité, pour résumer.
Absolument, oui, tout à fait.
Voilà, sans compter aussi des choses qui sont dans le domaine public, je parle des logiciels ou des outils que vous pourriez avoir qui sont au départ, on va dire, labellisés et puis protégés, et puis qu'à la longue, ils peuvent être exploités et réinterprétés aussi d'une certaine manière dans l'exploitation qui peut en être faite.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, on a bien compris donc les enjeux des nouvelles d'Archimède. Donc là, la dernière édition vient d'être diffusée, là, à la rentrée.
Tout à fait. Elle est disponible partout dans à peu près tous les bâtiments du campus.
Sachant qu'il y a souvent des chercheurs, hein, j'allais dire toujours, des chercheurs, des gens qui écrivent avec une certaine plume d'ailleurs dans ce journal. On aura le plaisir de les découvrir dans cette édition.
Et si je peux ajouter quelque chose, en fait, les nouvelles d'Archimède sont un peu la bande-annonce des conférences. Et on édite en plus deux ouvrages chaque année. Hein. Donc là, on est en train de sortir deux ouvrages qui sont les comptes rendus des cycles précédents, enfin les comptes rendus qui sont des ouvrages autour des cycles précédents. Et donc le 17 octobre, on va présenter un ouvrage qui rend compte du précédent cycle de conférences qui s'appelle La fièvre de l'évaluation, qui sera aux éditions du Septentrion. Et il y aura une présentation le 17 octobre à 17h30 au Furet de Lille. Et puis, on a un deuxième ouvrage qui s'appelle Le corps sans limite, qui sort aussi et qui, lui, sera présenté toujours au Furet de Lille le 14 novembre à 17h30.
Voilà. Donc, si vous le voulez bien, M. Olivier Lasvergnas, nous allons maintenant présenter la programmation qui est établie pour cette année, ou du moins jusqu'en décembre, mais rapidement, hein, il nous reste peu de temps. Mais l'idée, c'est de présenter un petit peu toute l'équipe qui se mobilise depuis déjà un bon moment pour nous préparer cette plaquette qui est sortie également, et le lancement de cette saison culturelle qui va intervenir le 3 octobre, la présentation à 18h à l'Espace Culture. Donc, premier point, cette présentation, elle est ouverte à qui ?
Alors, c'est précisément 18h30. On peut arriver à 18h. Elle est ouverte à tout le monde, c'est gratuit. Il faut simplement s'inscrire au préalable à culture.univ-lille1.fr pour être sûr, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, donc on veut avoir une vision du nombre. Mais c'est ouvert à tout le monde, 3 octobre, 18h30, à l'Espace Culture.
Très bien.
Et allez-y, pardon.
Donc je disais, un lancement de saison avec forcément une dimension spectaculaire.
Oui, oui, oui. Alors l'idée, c'est toujours que la programmation artistique, elle soit en résonance avec les cycles de conférences. Et effectivement, il faut comprendre que le vice-président culture que je suis, surtout que je viens d'accompagner Jean-Christophe Camard dans la nouvelle équipe, donc c'était mon collègue et ami Jean-Philippe Cassard qui a préparé la saison, hein, je prends la succession. Donc en fait, il y a un boulot incroyable qui est fait par Dominique H, Delphine Poirette, Sophie Braun et toute l'équipe.
C'est pas toutes les deux, parce qu'il y en a qui vont dire « ouais, on m'a oublié ».
Donc toute l'équipe dont le nom est au générique, hein, toute l'équipe de l'Espace Culture fait un boulot incroyable pour aller chercher des artistes, aller chercher des compagnies, des œuvres qui sont en résonance avec les thématiques. Et donc là, l'équipe nous a concocté une soirée de lancement avec deux propositions, un spectacle qui est un spectacle de jonglerie au bilboquet. Donc vous voyez le jeu, là, derrière le bilboquet, avec un artiste qui s'appelle Ézec Le Floch. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, on a une installation interactive qui est une production de Véronique Bellard, qui, elle, sera installée l'installation sera là jusqu'au 2 décembre, et qui est un système extrêmement intéressant. Alors, Je ne l'ai évidemment pas vu, puisque j'arrive. On m'a dit que c'était absolument génial. Ça s'appelle en anglais « As we are blind », puisqu'on est aveugle, en quelque sorte. Et c'est un dispositif qui a l'air vraiment, vraiment très, très séduisant, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a un système de cartographie émotionnelle, hein, qui est censé être capable de capter les variations de l'aura individuelle des personnes. Et ça donne une image numérique qui sert à produire une proposition de musique qui est jouée par un piano mécanique en temps réel. Donc on a une espèce de système artistique qui produit de la musique en fonction d'une captation d'une image émotionnelle.
Alors effectivement, pour ce dispositif notamment, il a été fait appel à des scientifiques, des chercheurs dans des domaines avec, par exemple, la collaboration du CNRS, etc. Donc on sait bien que parfois, hein, j'allais dire de plus en plus, les spectacles ont une partie technologique. Là, on est sur, on va dire, une sorte d'installation augmentée, et que tout cela, il faut derrière des gens qui cherchent. des solutions à des projets artistiques.
Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que on s'en rend bien compte, et c'est sans doute quelque chose qu'on va essayer de développer, c'est qu'en fait, l'université, c'est un vivier d'enseignants-chercheurs, mais aussi de biats, d'étudiants aussi, hein, de doctorants, d'associations d'étudiants, qui ont aussi évidemment des passions, des intérêts et des compétences scientifiques, technologiques, et que ce vivier, il peut entrer en complémentarité avec des artistes qui sont à la recherche de solutions technologiques. Et effectivement, un des rôles de l'espace culture et de son équipe, c'est d'arriver à faire ces mariages entre des artistes, des plasticiens, des producteurs de spectacles, des auteurs, qui ont envie de mettre en scène, de rendre compte de phénomènes, mais qui ont besoin de technologies, de solutions. Et l'université leur apporte des éléments.
Alors, monsieur Lesvernès, on va pouvoir entrer en lisant donc ce fascicule qui présente la saison de rentrée. Énormément de spectacles proposés. On ne va pas tous les expliciter. On va simplement dire aux personnes intéressées de se le procurer, notamment à Lille 1,
hein, oui.
Mais aussi culture.unif-lille1.fr sur le site culture de l'Université Lille 1. Vous allez avoir tous ces rendez-vous qui vous sont proposés jusqu'au 14 décembre avec des spectacles, des conférences, des expositions et des interventions. On aurait pu parler aussi de résidence artistique. Nous n'avons malheureusement pas le temps aujourd'hui, mais dans une autre émission, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous remercie d'être venu. Vous êtes le bienvenu pour votre première visite, mais nous en aurons d'autres, monsieur Lesvernès.
C'est moi qui vous remercie. Vraiment, vous faites un boulot fantastique.